Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode de The Automotive Vision Podcast. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de William Page. Donc, bonjour William.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Merci beaucoup en tout cas de participer tout simplement à ce podcast. Je pense que pour démarrer le podcast, du coup, si tu veux bien te présenter dans un premier temps avec ton parcours scolaire notamment, ce serait plutôt sympathique.
Donc moi c'est William, j'ai 33 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé mon parcours professionnel parce que voilà, j'étais pas un des meilleurs élèves à l'école, D'accord. au lycée, donc j'ai choisi la filiale professionnelle. J'ai commencé avec mes études avec un BEP où j'étais donc mécanicien en moto, que j'ai fait dans un internat et en alternance. Donc ça, D'accord. c'était en fait un bon moyen de pouvoir mettre un pied à l'étrier pour commencer un peu tout simplement la vie professionnelle. Ça m'a énormément branché et en fait j'ai continué, malheureusement parce qu'il n'y a pas encore de bac professionnel à mon époque dans la moto. Donc j'ai fait un changement de direction et je suis parti après sur un bac pro dans l'automobile pour devenir technicien automobile. Okay. Faut aussi avouer que le monde de la moto, il y a beaucoup moins d'emplois, mais il y a plus d'emplois justement dans l'automobile. Donc pour moi, c'était un spectre qui était beaucoup plus large, j'avais beaucoup plus de chances de trouver un travail.
Bien sûr.
Et en fait, dans l'automobile, on me demande de faire des stages. Donc j'ai travaillé un petit peu chez BMW, j'ai travaillé chez Peugeot, j'ai travaillé chez Renault pour découvrir un petit peu toutes les voitures, toutes les qualités, les moteurs et l'appréciation des différentes marques.
D'accord.
Et en fait, là-bas, j'ai eu une sorte de boost en fait sur ma carrière parce que moi je me plaisais énormément dans la mécanique et il y avait des mécaniciens qui étaient avec moi notamment chez BMW depuis quasiment une vingtaine d'années et moi j'étais content, j'avais ma servante, j'avais mon pont, tout le monde m'aimait bien, on me proposait de m'embaucher et ce mécanicien il me disait William, il dit regarde, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier là, j'ai jamais évolué, je peux pas évoluer. Il dit maintenant, toi, t'as le potentiel d'être comme les gars en chemise derrière le comptoir et de pouvoir évoluer et aller plus loin. Il dit, t'arrêtes pas là, continue. Et en fait, cette personne-là m'a motivé. J'ai décidé de continuer, donc de mettre la chemise, comme on dit. Mmh. J'ai fait un BTS MUC, management des unités commerciales, que j'ai fait donc aussi en alternance. Là, c'était super sympa parce que j'ai l'opportunité de le faire dans une concession moto. D'accord. Donc j'ai été responsable d'atelier, j'ai été magasinier, j'ai fait un petit peu de mécanique quand il fallait aider pendant le week-end et après j'étais responsable adjoint de la surface de vente. D'accord. Donc des belles opportunités pour une responsabilité on va dire à jeune âge. J'ai continué mon ascension, j'ai vu les choses un peu plus grand et j'ai décidé de me lancer dans les parcours des écoles de commerce. Aujourd'hui, les écoles de commerce, c'est quand même très onéreux. Et j'avais pas les moyens en fait de me payer une école de commerce. Donc, j'ai décidé de continuer de trouver en fait des entreprises pour pouvoir me financer mes études. Donc là, j'ai fait un bachelor business que j'ai fait en alternance chez Auchan à Paris. Là, j'ai fait un changement radical. Je me suis dit que j'allais retourner sur Paris et que j'allais essayer un petit peu le management à une plus haute échelle. Management dans la distribution.
Mmh.
Et là, j'étais en fait assistant du chef de secteur sur toute la partie nombricolage. Donc, tu vois, les Auchan, souvent, tu as le premier étage où c'est l'alimentaire et le second étage, c'est toute la partie non alimentaire.
Bien sûr.
Donc, j'assistais le chef de secteur sur la gestion journalière des activités, management de cet employé, mettre en place les opérations commerciales, mettre en place la déco de Noël, les thématiques pour Halloween, la Saint-Valentin, toutes ces grosses opérations.
Bien sûr.
On travaillait de nuit, il fallait gérer des équipes, les intérimaires. C'était une super expérience. La même chose à la fin du bachelor, ils ont souhaité donc m'embaucher et que je reste avec eux. Mais j'étais déterminé, je voulais aller encore plus haut. Et je voulais vraiment revenir un peu dans l'auto et la moto, qui est mon parcours de cœur.
Bien sûr.
Et j'ai postulé chez BMW France. Ils avaient un poste qui était libre au département moto sur l'administration des ventes au niveau national. Et donc j'ai été reçu. Donc là, c'était franchement le stage de mes rêves.
Incroyable.
J'ai fait ça pour mon M1, alternance, Je m'occupais de suivre en fait la production des motos des clients à l'usine à Berlin. Une fois que les motos étaient produites, on les transportait jusqu'en France. Ensuite, on redirigeait le flux vers tous les concessionnaires français.
D'accord.
Donc franchement, c'était une top expérience. Et à la suite de ça, j'ai terminé mon M2. Mon M2, en fait, je me suis rendu compte que il fallait que je fasse plutôt sur une dimension internationale et que je booste mon anglais. Parce que
D'accord.
pour obtenir ton diplôme d'école de commerce, il faut que tu valides un TOEIC, il faut que tu valides un score TOEFL, etc.
Bien sûr.
Et donc, j'ai décidé d'arrêter, pour le coup, l'alternance. J'ai revendu ma voiture, j'ai revendu ma moto, j'ai revendu tout mon petit patrimoine de l'époque
OK.
pour me payer cette dernière année d'école. Et je suis parti en Chine pour mon
Incroyable.
Master 2. Ouais, franchement, j'étais super pessimiste au début parce que voilà, on se dit la Chine, waouh, c'est un choc culturel, c'est super loin, on a tellement d'écart, bah, rien qu'entre la France et l'Europe et la Chine, c'est totalement différent. Déjà entre la démocratie, la dictature, etc. Et en fait, je suis parti là-bas pour un semestre et ça a été un choc. Je me suis rendu compte que j'adorais la population asiatique. Je me suis pris rapidement. Parce qu'on n'avait pas le choix, malheureusement, ils parlaient pas très bien anglais, les Chinois. Donc, à me mettre à des cours de chinois. Finalement, je suis rapidement devenu un des plus à l'aise en chinois de ma classe. C'est moi, à chaque fois, qui allais réserver les taxis, qui essayais d'arranger, si on allait faire des soirées avec ma classe, c'est moi qui étais en relation avec tous les public relations de toutes les boîtes de Chine.
OK.
Donc, je prenais un plaisir dans l'organisation, la gestion, la négociation, sur un niveau un peu international. Et ça, bah voilà, c'était mon parcours, on va dire, éducatif. Donc j'ai finalisé ce Master 2. Il s'avère que j'ai eu des petites difficultés pour finaliser parce que j'avais pas encore validé le niveau qu'il fallait en fait en anglais,
D'accord, très bien.
le TOEIC. J'avais 50 points, j'étais en retard. Et en fait, j'étais en report de diplôme. Donc un coup dur, malgré les efforts que j'avais faits. Premier coup dur. Et j'ai décidé de me lancer dans l'humanitaire. Donc, je suis allé vivre en Thaïlande quasiment un an. Et j'ai été prof d'anglais, à défaut
D'accord.
de mon niveau d'anglais. Donc, j'étais motivé, je regardais des cours en anglais, des vidéos, j'apprenais, je lisais pour pouvoir me perfectionner. Et j'ai été professeur d'anglais, en fait, pour aider les prostituées en Thaïlande à se reconvertir dans un emploi plus intéressant.
D'accord.
Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Et après, j'ai tellement été passionné dans l'humanitaire que j'ai eu une autre opportunité qui était toujours d'être prof d'anglais et prof d'IT, d'ordinateur. Toujours dans la même ville, j'étais à Phuket. Mais cette fois, c'était donc pour des petits orphelins dans un orphelinat qui étaient âgés de 5 à 11 ans. Et donc j'ai pris en charge une classe qui était super mixte. Et je les accompagnais sur comment se servir des basiques de l'ordinateur, on va dire se perfectionner en anglais pendant 6 mois. Donc ça m'a
D'accord.
fait une grosse expérience d'un an sur l'humanitaire, où ça a été très riche et j'ai des souvenirs graves à jamais.
C'est clair.
Et ça m'a permis de revenir en France et de valider mon niveau d'anglais et d'avoir mon master.
Incroyable. Et après, t'as fait quoi après ce master, du coup?
Écoute, après ce master-là, en fait, j'avais un petit peu le blues. Je voulais pas forcément revenir en France. Je voulais continuer à me perfectionner en anglais parce que quand je voyais en fait le mal que j'ai eu pour réussir à arriver juste au niveau en fait requis pour l'éducation pour valider ton master, je me suis dit que j'allais continuer à me perfectionner. J'ai
D'accord.
décidé de poser en fait mes valises en Allemagne quand je suis rentré parce que je voulais un endroit où on puisse parler français. Enfin, pas trop loin de la France, on puisse parler en anglais justement.
Bien sûr.
Avec un coup d'avion, je pouvais rentrer le week-end si je le fallais. C'était 1 heure et demie de Paris. Donc, je me suis posé là-bas. J'avais un objectif en tête. C'était, j'avais travaillé chez BMW durant mon master et je suis devenu un peu piqué à la marque. Je ne sais pas si ça se voit un peu là-bas, mais. Donc, j'étais
Légèrement.
piqué à la marque. Ouais. Et j'ai voulu, en fait, mon goal ultime, ça a été d'aller bosser justement chez BM Europe, qui est à
D'accord.
Munich. Tu sais, tu as la belle tour BMW en
Bien
forme de
sûr.
cylindre, etc. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai parcouru les offres, j'ai envoyé des candidatures sur différentes candidatures que je pouvais en fait simplement postuler.
Bien sûr.
Et malheureusement, mon expérience collait, ma motivation aussi, et je me suis fait recaler par rapport à mon niveau de langue en allemand.
D'accord.
Donc, tu vois, encore un coup dur. On peut rater des choses parce qu'on n'est pas bon en anglais et après on rate encore des opportunités parce qu'on n'a pas de niveau en allemand.
D'accord,
C'est un peu ridicule.
ouais.
Franchement,
Surtout que tout
c'est
se
un
fait en
peu
anglais
ridicule.
là-bas.
Bah oui. En fait, simplement que Munich, la Bavière, ils cherchent à garder une culture d'entreprise.
D'accord.
Malgré que BMW soit une entreprise mondialement connue, ils souhaitent pas qu'il y ait beaucoup de profils internationaux qui viennent et qui perdent tout simplement l'essence et les gènes de la culture bavaroise.
D'accord.
Donc pour eux, c'est obligatoire de parler allemand, même si dès lorsque tu pousses la porte d'entrée et tu rentres chez eux, personne ne parle allemand, ça parle anglais en fait, tout va. Mais c'est un must-have.
D'accord. OK.
Donc je me suis recalé. J'ai rebondi, j'ai réussi à atterrir dans une agence de merchandising. Donc là, j'étais Key Account Manager.
D'accord.
Donc une entreprise de merchandising qui s'occupe de fabriquer tous les produits que tu peux retrouver dans les fan clubs, pour notamment les clubs de foot.
D'accord, très bien.
Donc dès que tu vas dans un fan shop. Ou alors dans les fan clubs, tous les petits produits merchandising, les porte-clés, les tasses, voilà, tout ce qui est hors textile. Je m'occupais de faire ça. On avait des licences qui étaient super intéressantes. On
D'accord.
était licenciés de la FIFA, de l'UEFA. On s'occupait de tout ce qui était les clubs de la Champions League.
Incroyable.
En France, on s'occupait de la LFP, on s'occupait de Roland-Garros, on s'occupait de la Ligue de rugby. Donc, on était un peu on top sur tous les plus gros événements français et internationaux.
D'accord, très bien.
Et du coup, je t'avoue que j'étais pas un fan de foot, mais je me suis vraiment passionné en fait par les relations internationales, par tous les interlocuteurs que je rencontrais, qui eux étaient des mordus de football, de tennis ou rugby.
Bien
Et
sûr.
en fait, moi, ça corrélait un peu avec l'automobile et la moto. Quand t'es passionné, voilà, tu comptes pas tes heures. Et en fait, le fait de parler avec des personnes passionnées également, je me suis vraiment pris de passion du coup pour le job. Je suis resté quand même 5 ans dans la boîte.
D'accord.
J'ai évolué de Key Account Manager à International Account Manager. C'est-à-dire que je m'occupais après pas que de la France. Je faisais la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Donc j'ai rencontré des clubs incroyables. Comme le Real Madrid, j'allais au PSG, j'allais à Marseille, l'Inter Milan, la
OK.
Juventus, l'AC Milan. Donc, des meetings assez impressionants quand toi, tu prends l'avion, tu arrives avec ta petite valise, avec tes produits, tes porte-clés, etc. pour essayer de décrocher un contrat avec des clubs internationaux.
Ça
Voilà.
doit être impressionnant, bien sûr.
Ouais, il faut avoir de l'ambition, il faut être à la hauteur. Donc là, j'ai vachement appris. Après 5 ans, généralement on tourne un peu au niveau du job, on a envie de changer.
Bien sûr.
Moi, j'ai envie de remettre mes pieds un peu dans le domaine automobile ou la moto. Et je regardais les offres et je me suis rendu compte qu'à Munich, il y a un importateur avec Stellantis depuis la fusion pour les marques américaines Dodge et Ram.
D'accord.
Donc en fait, un importateur européen. Et j'ai vu une offre, il recherchait un responsable commercial pour développer le réseau et les ventes en fait en France. Donc depuis la maison mère européenne à Munich. Donc j'ai fait les entretiens, ça s'est super bien passé, j'ai été retenu. Et me voilà en fait arrivé sur un nouveau job, responsable commercial pour la France, pour Dodge Ram Europe. Donc grosse responsabilité,
Bien sûr.
un job où tu ne peux que être en fait heureux parce que moi je retournais Dodge et Ram, c'est des marques de passionnés. On connaît tous les Chargers, les Challengers avec Fast and Furious, Vin Diesel. On voit tous que c'est la voiture de passionnés. Donc en fait,
Évidemment.
pour moi c'était un peu une évidence de retrouver une marque avec un ADN aussi fort. Et après, tu as la partie avec les pick-up, donc les rames, qui sont que du V8, des véhicules assez exceptionnels. Donc voilà, ça m'a motivé. J'ai été en charge de développer donc toute la partie commerce, réseau sur la France.
D'accord.
J'ai commencé au début, quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas de français malheureusement, donc j'ai tout pris à zéro et j'ai dû monter ça pendant 3 ans. Je suis resté 3 ans chez eux. Et là, à mon arrivée, il y avait 3 concessionnaires en France. On faisait 90 voitures volume annuel de vente. Et à la fin des 3 ans, je suis parti. J'avais nommé au total 16 concessionnaires qui étaient actifs.
D'accord.
Et un volume de vente annuel environ de 750 voitures.
Pas simple.
Donc, ouais. Donc là, on peut se rendre compte que oui, j'ai explosé les objectifs. Ma direction était ravie, forcément. Moi aussi, j'étais dans une équipe de vente internationale. On était quoi, 20-25 vendeurs. Mmh. Et moi, j'étais motivé. On a tous des tableaux avec les KPI où il faut avoir le meilleur chiffre, la meilleure marge, le meilleur volume. Et moi, mon objectif, c'était d'être numéro un partout.
Okay.
Donc, je me suis tué à la tâche et ça m'a permis, en fait, de réussir dans ce métier. Et ça, ça a été mes dernières années en Allemagne.
D'accord.
Après, j'ai décidé de rentrer en France.
Ok. Très bien. Et donc, du coup, d'où vient un petit peu cette passion pour l'automobile ? Explique-nous un petit peu.
Bah écoute, passion de l'automobile, voilà, c'est un peu génération en génération. Moi, ça vient de mon grand-père et de mon père.
D'accord.
Mon grand-père, il a toujours aimé les belles autos, des vieilles Jaguars, etc. C'était un collectionneur et il a toujours adoré ça. Il collectionnait après aussi les miniatures qu'il mettait sur des étagères chez lui. Il avait une collection entière. Donc moi, quand j'étais petit, je voulais toujours, il me faisait monter dans ses voitures. Et aussi aller dans sa chambre avec sa collection et toucher tous les modèles réduits et miniatures. Après, cette passion, je l'ai aussi retrouvée avec mon père.
D'accord.
Mon père, ça a été un fan de voitures, voilà, tout en fonction de son budget, mais aussi fan de moto, parce que du coup, les motos D'accord. étaient beaucoup plus abordables en termes de budget.
Bien sûr.
Et donc, c'est là que j'ai eu aussi mes premières sensations, mes premiers tours de moto, mes premiers tours de voiture. Et c'est une passion, voilà. Quand ça nous plaît, ça nous prend, on est mordu et après on peut plus s'en passer.
C'est ça, exactement. Et comment en fait tu as réussi à intégrer cette passion dans le travail ? Explique-nous un petit peu.
Bah, pour moi, c'était un petit peu un objectif. C'est-à-dire que mes parents, c'est une famille très modeste. Ma mère était secrétaire, mon père était militaire. On a tous vécu une période qui était tout à fait normale, mais très modeste. Mon père a été retraité très jeune, après quasiment 20-25 ans d'armée. Donc, tu vois, quasiment avant la cinquantaine, finalement, il a pu être retraité de l'armée, donc avoir une petite retraite. Avec quelques économies, lui étant passionné initialement de moto, il s'est dit qu'il allait adhérer en fait à une franchise de moto.
D'accord.
Donc à l'époque, il rejoint le réseau national des magasins d'Affi Moto, qui sont des magasins d'équipement de la moto et du pilote.
D'accord.
Donc il rejoint ça avec un petit budget de départ, il loue un local, il commence à mettre en place les choses. Et rapidement, le business prend feu sur la région de La Rochelle.
Ok, très bien.
Là, ça va faire maintenant plus de 10 ans, même quasiment 15 ans, que le magasin tourne. Et ils ont évolué. Donc, par rapport à Daffy Moto, ils ont changé d'enseigne. Parce que Daffy Moto, tu peux aller jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et une fois que tu changes de catégorie, tu dois passer en fait de la catégorie supermarché à hypermarché. Et la catégorie hypermarché, c'est les magasins Maxess.
D'accord.
Donc maintenant, ils sont magasins Maxess. Et moi à la sortie d'école, le week-end, à mon temps perdu, qui ne rêve pas d'aller dans un atelier de moto, dans un magasin de moto, voir ce que tes parents y font, parce qu'ils doivent travailler le week-end.
Ouais.
Donc j'ai passé énormément de temps là-bas, à les regarder, à apprendre, Et bah, forcément, je me suis pris de passion parce que quand on a un enfant, on peut être plus admiratif de ses parents.
Ok, bien sûr. Et donc du coup, on va se parler donc maintenant de ton expérience professionnelle. De manière générale, est-ce que tu peux nous dire comment a évolué donc en fait tout simplement le secteur automobile avant et après Covid? Est-ce que tu as remarqué une transition toi ou pas du tout?
Bah écoute, oui, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a eu le Covid, cette période-là, ça a été, ça s'est positionné en même temps qu'il y a eu, tu sais, les contraintes de production sur les microconducteurs, les microprocesseurs.
Oui.
Donc, c'était un moment où dans l'automobile, le marché a freiné, mais du fait que la Chine ne produisait plus assez de microconducteurs, microprocesseurs, bah malheureusement, il y avait beaucoup de voitures qui étaient produites, qui étaient sur les parkings directement en sortie d'usine et qui ne
D'accord.
pouvaient pas être livrées parce que des fois, chaque option a besoin d'un microprocesseur pour fonctionner. Tu te rends compte que des fois, dans des voitures, tu peux en avoir une centaine. Donc, c'est pour ça que des voitures sortaient pas très optionnées pour pouvoir avoir plus de volume, et etc. Et je me suis rendu compte que oui, à cette période, bah, en fait, il y avait un fort besoin en termes de voitures, du fait qu'il y a des contraintes de production, la demande était beaucoup plus haute.
Ok.
C'est un peu une formule classique.
Bien sûr.
Et après, dès que les choses sont revenues dans l'ordre et que le Covid, en fait, a été terminé, je pense qu'il y a eu un peu un contre-pied. Là, je le ressens énormément en ce moment. Je m'aperçois que le marché, se dégrade. Tu vois, moi, j'en ai des Dodge et des Ram, c'était des V8.
Ouais.
De 400 chevaux à quasiment 700, 800 chevaux.
D'accord.
Et malheureusement, l'économie française ne nous aide pas. Tu as une écotaxe qui est super élevée. On met dans le collimateur les SUV à Paris. Les voitures qui polluent sont de plus en plus dans le collimateur aussi de la France. Donc malheureusement, pour des raisons de taxes maintenant, la demande baisse et. On nous force à prendre les transports en commun, on nous force à essayer de faire du covoiturage. Donc ça se ressent quand même sur les ventes.
Bien sûr, d'accord. Et est-ce que du coup, tu as réussi à remarquer une différence de clientèle, d'ambiance et de gestion de travail, justement, entre les entreprises françaises dans lesquelles tu as travaillé et les entreprises allemandes?
Ah, c'était le jour et la nuit, hein.
Ok.
Bah déjà, tu sais, en France, CDI 35 heures. Nous en Allemagne, moi quand j'ai mon premier CDI, je vois 39 heures.
Ok.
Je dis waouh, 39 heures, mais c'est pas normal. Si, si, c'est le CDI en Allemagne, d'accord. Et au final, bah, en France, c'est connu, hein, on prend 2 heures le midi, de midi à 14 heures pour aller à la cantine, déjeuner, ou des fois on va faire 1 heure de sport, et voilà. En Allemagne, c'est l'efficacité. Déjà, il n'y a pas d'open space, tout le monde travaille dans des bureaux fermés.
D'accord.
Donc, il y en a qui vont arriver à 7h30 le matin, ils vont se mettre dans leur bureau, ils sont tout seuls, et en fait, ils abattent leur liste de tâches, ils abattent leur email. C'est vraiment efficacité, production.
Très bien.
Le midi, ils viennent tous avec leur lunchbox, et ils mangent devant l'ordinateur en 30 minutes.
OK.
Et en fait, ils font leur journée de travail très tôt, ils arrivent à partir sur le milieu, la fin d'après-midi.
D'accord.
Et au final, ils ont été des fois beaucoup plus productifs que les Français et ils travaillent beaucoup plus.
OK.
Donc, il y a une mentalité qui est totalement différente. En France, on essaye toujours, dans le travail, de chercher aussi les limites. Là, on se rend compte qu'en Allemagne, non, les limites, elles sont fixées et personne ne va chercher, à expérimenter, d'aller à gauche ou à droite, en fait, des limites, de sortir
D'accord.
un petit peu des zones.
Il y a moins de prise d'initiative en fait en Allemagne.
Ah, il y a moins de prise. Non, non, non.
Ok.
Il y a un protocole, il y a des processus et il faut que les suivre.
D'accord.
Moi qui avais une mentalité un peu française, voilà, je disais toujours, c'est ridicule, le protocole ou le process dit ça, mais si hop, on le coupe, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et je me retrouvais à avoir de sacrées négociations et de sacrées discussions avec mes équipes allemandes. Mais bon, c'est ce qui est sympa.
D'accord, ok. Et en termes
Mais
de
ouais, une totale.
clientèle?
Bah moi en fait j'ai toujours été basé en Allemagne mais je travaille toujours bah pour les clients français ou internationaux. Je
D'accord.
bossais jamais vraiment pour les clients allemands parce que mon niveau d'allemand ne me permettait pas de gérer en fait les clients en local. Il y avait les équipes allemandes qui géraient directement. Et moi, je m'occupais toujours dans mes emplois des clients français ou alors, comme je t'avais dit, je faisais un peu d'Espagne, du Portugal, de l'Italie, etc. Mais je gérais tout en anglais à chaque fois.
Ok, d'accord. Et d'ailleurs, ouais, ça c'est intéressant. Comment tu faisais en fait pour tout simplement t'adapter à la culture lors des négociations avec tout simplement des entreprises et des personnes internationales?
En fait, on n'a pas de choix, hein. Là, dans le milieu du football, où je m'occupais de différents pays sur la gestion des clubs de foot, il faut regarder tous les matchs du championnat. Tu vas retrouver soit sur les cérémonies d'ouverture, ou alors au travers des blasons des clubs de foot, tu as toujours des éléments forts, soit de la ville, soit de la région, soit du pays. Et aussi, quand tu crées des produits, quand tu dois faire des propositions un club de foot, t'as pas le choix que de faire des recherches sur Internet et de t'ancrer en fait de tous les éléments qui vont être forts pour le club. Donc ça passe par des recherches historiques, ça passe par des éléments clés et tout ça, tu dois essayer d'intégrer une partie historique dans des produits. Donc naturellement, en fait, j'étais renseigné sur tous les clubs, je connaissais leur palmarès, je connaissais les monuments de la ville. On faisait des porte-clés avec les skylines, tous les bâtiments cultes de chaque ville, etc.
D'accord.
Donc, ouais.
Ok. Et donc du coup là, je vais avoir une question qui va être plus sur donc, du coup ton expérience de Dodge et Ram. T'as réussi quand même, t'as clairement en fait développé tes ventes de ton arrivée jusqu'à ton départ, c'était presque un fois 8. Comment tu t'y es pris pour justement, quelle stratégie t'as mis en place pour tout simplement développer ces ventes?
Moi, je suis quelqu'un qui suis très basé sur le service et l'accompagnement.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris et ça a été très dur le début en Allemagne. Mais une fois qu'on comprend comment ils travaillent et leur processus, il y a toute une méthode rigoureuse et consciencieuse qui vient avec. Donc sur la partie travail, j'ai réussi à être cadré et appliquer des méthodes de travail qui m'ont aidé à exploser mes objectifs.
D'accord, très bien.
Et après, en fait, sur la partie France, moi, quand j'allais voir mes concessionnaires, voilà, on avait quand même l'importateur, ils sont quasiment 250, 270 employés. Il y a un service technique, il y a un service garantie, il y a un parti pour faire training et formation. Il y
D'accord.
a énormément de départements. Donc, en fait, j'avais du soutien, malgré que j'étais le seul à parler français sur les 270 personnes. Et moi, je rendais le service comme je suis votre référent. Si vous avez besoin de n'importe quoi, en fait, j'étais toujours le point central dans tous les sujets.
D'accord.
Je vendais une voiture, il y avait un problème de garantie, j'étais toujours mis en copie, c'est moi qui suivais, je relançais les départements. Pareil, il y avait une demande de pièces qui devait être faite. Le client, il avait fait sa demande, je voyais que ça prenait un peu de temps, je relançais immédiatement le service pièces.
Okay.
Et j'expliquais l'urgence parce que par rapport à des grandes entreprises, moi j'ai eu la chance de travailler, que ce soit comme mécanicien, comme magasinier, comme chef d'atelier, comme responsable de la surface de vente. Donc j'ai fait toute la partie opérationnelle. Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un au téléphone et qu'on me dit William, il faut absolument cette pièce pour la voiture parce que le client part en vacances avec, je comprends l'urgence.
Bien sûr.
Parce que j'ai eu le client moi-même en face de moi et je sais qu'il faut mettre tout en place parce que le fait de pouvoir assurer ce service, ça va te donner un retour formidable. Ton client va te faire confiance, tu vas te reconnaître, ça va donner du bouche à oreille. Et toutes ces choses-là, quand on est professionnel, on cherche en fait à avoir un maximum de reconnaissance de la part de tes clients. Et c'est des choses primordiales que d'essayer de satisfaire les demandes. Donc, moi, j'ai toujours été le point central sur tous les besoins. J'en ai trop fait,
D'accord.
certainement beaucoup trop, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats exceptionnels.
D'accord. Ok, très bien. C'est vrai que franchement, tu as eu quand même un parcours qui est assez exceptionnel dans le sens où tu es vraiment passé par toutes les cases avant de devenir responsable des ventes. Et ça, je pense que forcément, ça ne peut être que positif pour ton parcours professionnel et ça a dû forcément être un élément, un gros élément déclencheur de ce type de résultat.
Oui, totalement. Bah, c'est vrai qu'en termes de background, quand BMW il comprenait que j'étais mécanicien, que quand j'avais un concessionnaire au bout du téléphone, il me parlait que ce soit un problème mécanique, électronique ou hydraulique. J'avais quand même fait 4 ans d'études dans le domaine et j'avais mis ça en application avec des stages.
Bien sûr.
Forcément, ça change la donne. Parce que la plupart des personnes chez les constructeurs, c'est des personnes qui vont faire un parcours master classique.
D'accord.
Sans alternance, ils vont payer les écoles, ils vont pas avoir d'expérience professionnelle.
Bien sûr.
Moi, rien qu'avec mon expérience durant mes études, j'arrivais sur le monde du travail, j'avais déjà quasiment 4-5 années d'expérience. Donc, c'est quand même assez incroyable.
C'est énorme, c'est sûr. Et est-ce que à tout hasard tu formais toi tes vendeurs dans les concessions dans lesquelles tu étais ou pas du tout?
Bah écoute, je faisais ce que je pouvais, pour être honnête.
D'accord.
J'avais un département formation, mais le problème, c'est qu'ils faisaient des supports, c'était toujours en allemand ou en anglais.
D'accord.
Donc, moi, le support, je le prenais, je leur traduisais, je l'envoyais à mes équipes. Après, ceux qui avaient besoin, quand je passais faire des visites chez les concessionnaires, on prenait le PowerPoint, je mettais autour de la voiture et on faisait un tour de la voiture. On revoyait notre argumentaire de vente, on repointait quels étaient les points forts et les points faibles de la voiture.
D'accord.
J'allais au travers toutes les questions. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu es présent, si tu montres que tu te donnes le moyen de réussir, si même quand tu ne connais pas la réponse, tu dis que ne vous inquiétez pas, je vais chercher un retour et je vous reviens.
Bien sûr.
Moi, c'est vraiment cette mentalité-là. Je me battais pour rassembler un maximum d'éléments, pour avoir un maximum de réponses. Et bah, voilà, c'est ce qui m'a fait obtenir ces résultats-là.
Du coup, pour toi, selon toi, quel a été tout simplement le plus grand défi auquel tu as dû faire face en tant que sales manager?
Bah, quand tu es sales manager, en fait, tu es vraiment sur tous les fronts, comme j'ai expliqué.
D'accord.
Tu dois être responsable sur tous les différents départements de la société. Pour avoir du contrôle et assurer la qualité. Le plus gros challenge actuellement, c'est de maintenir des standards de vente où bah, tu excelles et tu fais des résultats incroyables
Bien sûr.
et de matcher ça avec, on va dire plutôt, ta vie perso. Moi, ça a été un des plus gros challenges, la partie, comme on appelle, work-life balance. Donc, très dur parce que forcément, les concessionnaires, bah, c'est tous des chefs d'entreprise, c'est tous des entrepreneurs. Souvent durant la journée, ils ont la tête dans le guidon, ils vont t'écrire bah, la débauche. Donc après 19h ou tard le soir, ils sont en train de regarder leur facture, ils te font un appel, ils s'aperçoivent qu'il y a des différences, est-ce que j'ai payé cette voiture, est-ce que j'ai un avoir ici? Et bah ça malheureusement, quand tu es sales manager, ton téléphone, il s'arrête pas, il est joignable 7 sur 7, 24 sur 24. Et c'est ce qui crée le rapport privilégié. Après, c'est négatif, comme ça peut être positif, mais il faut savoir le jauger.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, maintenant, on va passer un petit peu plus sur le marché allemand. Pour toi, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui t'a motivé tout simplement à partir en Allemagne?
Moi, en fait, je voulais pas revenir en France parce que j'ai simplement kiffé la période internationale.
D'accord.
La Chine, voilà, c'était incroyable. La Thaïlande, c'était incroyable. Je me suis rendu compte que la culture et tout le mindset, en fait, international, c'est quelque chose qu'on a un peu moins en France.
Bien
On
sûr.
n'a pas la même façon de penser. Et moi, je voulais vraiment mûrir mon mindset avec des internationaux.
D'accord.
Donc, en fait, l'Allemagne, c'était à côté de la France, c'était pas loin. C'est quand même le pays de l'automobile. Donc, c'est un peu la Mecque de l'automobile.
Bien sûr.
Pour moi, on va dire que c'était une évidence. Donc, je suis allé là-bas pour essayer, pour faire ma carrière. Parce que, mine de rien, quand tu es français et qu'il y a marqué sur ton CV que tu as fait quasiment 7-8 ans d'expérience professionnelle en Allemagne, ça t'offre quand même une certaine crédibilité.
Bien sûr. Bien sûr. Et donc, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques inconvénients que tu as eu là-bas ou t'en as pas eu?
Inconvénient, ça a été, pour être honnête, la langue. C'est très dur,
D'accord.
très très dur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour y arriver, et franchement, c'est un calvaire. Moi, j'avais appris l'espagnol à l'école et je suis arrivé là-bas, c'est très dur, les prononciations, rouler les R, les CH, il faut faire des sons avec ta bouche et moi, j'arrive pas du tout.
D'accord.
Donc, la langue, ça a été très dur, malgré que j'ai trouvé des personnes super sympathiques. Dans mon cadre professionnel aussi, j'étais entouré de personnes extrêmement compétentes et incroyables.
D'accord.
Donc, ça a été extrêmement riche. Mais jamais vraiment réussi à me faire à la langue. Et bah, tu vois, après 7-8 ans, c'est peut-être aussi naturel, mais après tant d'années, en fait, loin de la France, j'ai commencé à ressentir le besoin de revenir.
D'accord.
Et c'est ce qui m'a poussé de partir et de revenir en France.
Ok. Et est-ce que tu peux nous donner du coup une fourchette de salaire que tu as eu en tant que sales manager en Allemagne?
Ouais, alors franchement, les salaires, c'était pas mal. Sur du sales manager, tu peux faire jusqu'à 100K à l'année.
D'accord. Ah oui, quand même.
Ouais, bah franchement, oui. Bah déjà, on travaille 39 heures par semaine, on travaille plus. Donc voilà. Et après, ça dépend de ce que tu fais, mais bah, tu peux avoir un variable. Tu peux
D'accord.
avoir un variable et des primes, mais. Bah, moi, tu peux remarquer qu'en objectif, j'ai quand même fait du x8 sur une année. Donc, tu peux très rapidement doubler ton fixe si
D'accord.
tu es bon sur le variable.
Ok. D'accord, très bien. Donc 100K annuel, c'est en comprenant le variable.
100K, non, juste en
Ah oui,
fixe. Et
juste en
après, bah,
fixe.
tu peux
Ok.
doubler, tu peux faire quasiment 200K à
Ok.
l'année, même plus. Parce qu'après, quand tu es dans le commerce comme ça, bah, le ciel, c'est la limite, hein.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Non, c'est bon à savoir parce que tu vois, j'ai fait plusieurs podcasts et on me dit que l'automobile, ça paye de moins en moins. Mais du coup, je pense que ça doit être plutôt sur le marché français. Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, je pense que ça dépend des mentalités, ça dépend des boîtes, ça dépend des grilles de rémunération.
Ok.
Moi, je fais très attention à tout ça. Moi, je ne vais pas travailler quelque part par défaut. J'analyse à chaque fois forcément les conditions de rémunération parce que on a quand même qu'une vie et le but c'est de gagner de l'argent pour satisfaire à ses besoins et d'être un maximum indépendant, hein.
Ouais, bien
On n'a
sûr.
pas envie d'être un esclave de notre travail, donc c'est pour ça que quand tu lis la passion, ça te permet de t'épanouir.
C'est vrai.
Mais effectivement, non, sur la partie rémunération, il faut regarder, il faut négocier.
Bien sûr.
Moi, j'ai jamais accepté les premières conditions au départ. Après, je suis aussi parti de chez Dodge Ram après 3 ans parce que malheureusement, étant donné que je suis en dépassement d'objectif, ma rémunération explosait.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que ce que j'avais signé au début, ils souhaitaient plus l'appliquer. Ils souhaitaient réduire les commissions, malheureusement. Et
Ok.
donc, bah voilà, j'ai décidé après de prendre mon départ.
D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup dans le métier de sales manager?
Bah, le sales manager, en fait, c'est incroyable parce que tu as de la liberté, tu as des responsabilités. Moi, j'avais vraiment carte blanche. Que ce
D'accord.
soit mon expérience dans le merchandising avec les clubs de foot, que
Ok.
ce soit chez Dodge Ram, à chaque fois, je commençais, j'avais tout à faire, j'avais tout à construire.
Ok.
Donc c'était incroyable. Dans le football, sur le merchandising, il suffisait que je regarde les news ou alors les matchs de foot. Dès qu'il y avait un vainqueur, je transformais ça en une opportunité en créant une gamme de produits.
Bien sûr.
Quand j'étais chez Dodge Ram, c'était aussi responsabilité incroyable. J'avais un concessionnaire, il souhaitait faire un event, bah, on faisait un business plan, on mettait en place un event. Il
Ok.
souhaitait aller faire un rallye, on organisait ça. Donc moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait que tu aies les responsabilités, de la liberté dans ton travail et que tu sois avec des personnes passionnées, encore une fois, parce que
Ok.
tous les directeurs de concession, c'est des passionnés.
Bien sûr.
Tous les représentants de clubs de foot, c'est aussi des passionnés. Donc, ça, c'était génial.
Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote marquante ou une expérience enrichissante ou marquante dans ton parcours professionnel?
Moi, j'ai une anecdote, mais je sais pas si c'est enrichissant. Sur mon départ de l'Allemagne, en fait, bah, j'ai fait un burn-out.
D'accord.
Et pour moi, ça a été quelque chose de super dur. Voilà, J'ai explosé mes objectifs, j'étais quasiment à x8. Et le problème était que j'ai pas réussi en fait à fixer des limites dans mon travail. Je disais oui à tout.
D'accord.
Je suis très soucieux et je suis très aidant, donc je souhaitais aider à chaque fois mes managers. Et au final, on m'appelait, que ce soit le week-end, les soirs, en disant, voilà, William, il manque 1 million sur la société, est-ce que tu peux nous aider? Je sais que tu peux sortir des voitures supplémentaires. Et bah, malheureusement, je disais oui. Et donc, à chaque fois, je faisais de l'extra, je faisais de l'extra, je sortais des voitures en supplémentaire. Et malheureusement, j'étais la personne la plus fiable de l'équipe. Donc, en fait, tous les grands directeurs se tourner vers moi et me demander à chaque fois de les aider.
D'accord.
Et malheureusement, ça m'a tué. Ça m'a tué. J'ai fait un burn-out. Ça a été une période très compliquée. Parce que j'ai eu aussi, ma femme a accouché. Donc, nous avons eu une petite fille.
Félicitations.
Et merci. L'arrivée de ma petite fille, la naissance, j'étais sur une clôture annuelle. Donc, en termes de résultats et de volume, c'était super stressant.
D'accord.
Et mes managers qui m'en demandaient toujours plus, j'ai pas tenu. Donc, je commence à partir en burn-out.
D'accord.
J'ai eu quand même de la chance de sentir que ça arrivait. J'ai pas levé la main en disant voilà, je suis en burn-out quand j'étais en plein dedans. J'ai réussi à lever la main au moment où je sentais que ça partait. Donc, j'ai réussi à me mettre en arrêt et à me faire soigner.
D'accord.
Et bah, ça a pris quand même plusieurs mois. Et bah, on se met à réfléchir. Hein. On se met à réfléchir.
Forcément. Forcément. Et donc, du coup, avec tout ce panel d'expérience, est-ce que du coup, tu as pensé à l'entrepreneuriat?
Bah justement, en étant sur mon burn-out, je suis resté quasiment 3 mois à réfléchir au sujet.
D'accord.
Et je me suis dit, j'ai tellement été déçu, on va dire, à chaque fois que j'ai été employé, j'ai été déçu des personnes avec qui je travaillais,
D'accord.
soit parce que mon niveau d'exigence et d'excellence était pas à leur niveau et à chaque fois j'étais déçu parce qu'ils mettaient en place des solutions qui étaient contraires à ce que je voulais faire ou ils allaient dans une direction opposée.
Bien sûr.
Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer du coup de travailler pour moi-même. Au lieu de décevoir des personnes, il est mieux en fait de travailler pour soi, d'essayer de devenir indépendant et voilà, au moins on sait où est-ce qu'on met son énergie et ses efforts.
C'est vrai. Et donc du coup, on en parlera dans un autre podcast quand je viendrai directement sur Paris.
Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Je t'expliquerai ma création et mon parcours entrepreneurial.
Ok, super. Et donc du coup, raconte-nous un petit peu comment tu as constitué un carnet d'adresses, parce que j'imagine que bon bah t'as quand même eu de l'expérience au début dans l'automobile, mais t'avais pas réellement de carnet d'adresses pour bah du coup mener à bien le poste de sales manager. Comment tu te l'es construit de A à Z? Explique-nous un petit peu.
Bah, j'ai un peu de contact de chez BMW en gérant tout le réseau des concessionnaires quand j'étais au
D'accord.
siège.
Ok.
Après, on va pas se mentir, hein, c'est la prospection.
Oui.
Ça veut dire que moi j'utilise énormément LinkedIn. Je regardais sur LinkedIn qui étaient les directeurs de groupes automobiles, de concessions, etc. Et bah, j'écrivais tout simplement à tout le monde. Je démarchais, je prospectais, j'identifiais des showrooms sur des axes, etc. qui me semblaient intéressants.
D'accord.
Et j'étais très opportuniste. J'y allais et j'essayais de vendre tout simplement mes services et les marques. Après, je travaillais quand même pour des marques incroyables. Quand tu représentes l'importateur européen d'une marque américaine qui a un ADN incroyable,
Bien sûr.
tu te fais rarement en fait rejeter. Donc ça m'a aussi aidé. Et c'est comme ça que j'ai pu développer, bah, tu vois, 3 concessionnaires à 16 concessionnaires sur la France.
Ok, très bien.
Mais il n'y a pas de secret. Le travail, c'est
Le
la
travail.
prospection.
Ok, très bien. Donc actuellement, comment en fait tu vois l'évolution du secteur automobile dans les années à venir?
Là, on le voit, hein, toutes les marques se mettent à faire de l'hybride, de l'électrique. Je pense qu'on était tous réticents sur le fait de perdre les beaux moteurs et la belle mécanique.
Bien sûr.
Mais quand on voit aujourd'hui le nombre de chevaux qu'on sort en hybride ou en électrique,
Oui.
franchement, c'est incroyable. Je pense qu'on a tous besoin de temps pour accepter le message. Mais Aujourd'hui, franchement, l'hybride et l'électrique, ben, moi je trouve ça quand même incroyable. On a des voitures qui sont silencieuses, qui sont performantes, qui sont bourrées de technologie. C'est le futur et on y arrive. Donc je trouve ça très excitant. Heureusement et bon malheureusement, on est quand même poussé, particulièrement en France, vers ça. Pour aussi éviter les taxes, parce que quand on voit les taxes qu'on paye par rapport à notre pays, c'est quand même incroyable.
Bien sûr.
En France, 60 000 euros pour une voiture en écotaxe, alors que cette voiture-là, en Allemagne, bah, t'as pas du tout cette somme à payer. Tu vas payer tout simplement une taxe à la ville de façon annuelle. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on soit comme ça en France. Mais je suis pressé. Je suis pressé du futur parce que,
D'accord.
quand je vois toutes les voitures hybrides, les Revuelto par exemple, où ça sort quasiment 1 000 chevaux, bah ça promet.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que tu as dû le voir, en fait, tu as dû le remarquer déjà chez Dodge et chez Ram. Je pense que vous avez été fortement impacté par le malus, même à l'époque, en France. Parce qu'à l'époque, je pense que juste après Covid, on était déjà à 30 000 euros de mémoire. Maintenant, on est à 60. Au final, c'est presque le prix d'une deuxième voiture.
Ouais, totalement, totalement. Bah, en fait, chez Dodge et Ram, en France, on avait une passe où, grosso modo, on vendait que des pick-up et pas du tout la partie Dodge avec les voitures de sport.
D'accord.
Hormis de l'occasion, où soit le malus était déjà payé ou le malus était très faible.
OK.
Parce qu'aujourd'hui, bon, les pick-up, il y avait de multiples avantages sur les sociétés et ça a été clairement le plus gros des ventes.
OK.
Mais oui, sur la voiture de sport en France, on voit que c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, juste par principe, qui vont pas payer le malus écologique et qui vont des fois préférer rouler en plaque allemande ou garder la voiture en W sur la société.
Ouais, bien sûr.
Parce que, bon, c'est clairement 60 000 euros qu'on donne à l'État et c'est dur.
Ok. C'est étonnant d'ailleurs, vous vendiez pas de SRT du coup. Vous vendiez beaucoup de pick-up, mais pas vraiment de voitures assez, on va dire, puissantes.
Ah, si, on en vendait,
Ok.
ça m'est arrivé de faire des commandes usines pour des personnes qui souhaitaient des Challenger. Donc Challenger R4 en plus de 700 chevaux, 6 litres de compressé.
Ok.
C'est des voitures incroyables. Et en fait, ça c'est aussi arrivé parce que Dodge et Ram ont annoncé l'arrêt du V8.
Ok,
Il y a eu
d'accord.
l'arrêt du V8, le fameux moteur Hemi qui est la référence aux États-Unis.
Bien sûr.
Parce que pareil, malheureusement, les USA sont pointés du doigt sur les émissions et ils font tous un peu du downsize, donc ils réduisent leur moteur.
Bien sûr.
Et là, on peut le voir maintenant dans la presse, Dodge Ram, par exemple, arrête le V8. Donc là, cette année, toutes les voitures avec des V8, ils font un programme qui est appelé Last Call et ils lancent le 6 cylindres.
D'accord.
Donc
Ok.
là, par exemple, le pick-up phare de la gamme, c'est bah, le moteur de la L4 qu'ils ont mis dans un pick-up.
Incroyable.
C'est
D'accord.
le Ram TRX.
Ok.
Ça fait 700 chevaux dans un pick-up. C'est le pick-up de série le plus puissant du monde.
Ok.
Enfin, c'est incroyable. Et bah voilà, on se dit que malheureusement, ça s'est arrêté et maintenant ils mettent des petits 6 cylindres dedans.
D'accord. Ok, très bien. Et donc toi, en fait, le fait que l'avenir donc se tournera plutôt vers l'hybride et l'électrique, malgré le nombre de chevaux, on va avoir une perte de l'odorat, on va avoir une perte de l'ouïe, je pense. Ça te dérange pas?
Non, moi je trouve ça intéressant. Franchement, j'adore conduire des belles autos, de la belle mécanique, etc. Mais je trouve que cette partie-là peut rester sur le plaisir. Ça
D'accord.
veut dire que, selon moi, une belle voiture ancienne avec les gros carburateurs, etc., c'est des choses où tu vas prendre le plaisir à avoir ça pour des courtes distances.
Bien sûr.
Mais là où je trouve ce qui est incroyable, c'est que cette hybridation et bah, le fait qu'il y ait des voitures électriques maintenant, ça va t'ouvrir de plus en plus d'opportunités sur les longues distances.
D'accord.
Et moi qui ai beaucoup fait d'aller-retour à chaque fois France-Allemagne, bah franchement, quand des fois tu fais 12 heures de conduite juste sur une journée,
Bien sûr.
tu te rends compte que bah ouais, si ta voiture elle était autonome, si tu pouvais faire d'autres choses, ce serait quand même sympa.
C'est vrai.
Aussi de réduire les risques d'accident, que ce soit lié à la fatigue, à la perte d'attention, etc. Moi, je trouve que sur toute cette partie-là, ça va être super intéressant. Franchement, j'attends avec impatience la conduite autonome, comme si tu étais assis à l'arrière de ton taxi et que ta voiture t'emmenait là où tu allais.
Bien sûr, ça va être dingue.
Moi, j'attends ça avec impatience, parce qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, mais je trouve que conduire des longues distances est quand même très contraignant.
Bien sûr, t'as bien raison. Une des dernières questions, on va dire, est-ce que t'as des personnes, donc des mentors, ou tout simplement bah, des livres qui t'ont inspiré et qui ont une influence du coup sur ton parcours professionnel que tu aimerais partager?
Bah écoute, moi je regarde énormément, on va dire, le top des entrepreneurs.
D'accord.
Donc, malgré tout, je suis un fan d'Elon Musk, malgré ce que les personnes peuvent penser. Quand on voit que c'est quelqu'un qui est à la tête de Tesla, qui a lancé SpaceX, qui lance des entreprises dans les panneaux solaires et qui a racheté Twitter et il se prend des pertes colossales. Le lendemain, en bourse, ça remonte. Enfin, c'est incroyable. Il investit, que ce soit des fonds personnels. Enfin, c'est vraiment un chapeau.
Bien
Moi,
sûr.
des entrepreneurs comme ça, ça me fait vraiment rêver. Après, j'aime beaucoup aussi en France Anthony Bourbon.
En effet, ouais.
Ouais, entrepreneur qui prône un peu la méritocratie. Moi, je suis très fan de ça parce que voilà, aujourd'hui, tout se mérite. On a beau dire ce qu'on veut là-dessus, mais la méritocratie, ce serait quelque chose de génial. Et moi, quand je vois sa façon de penser et de travailler, pour lui, l'argent, c'est un levier. Il souhaite emmagasiner un maximum d'argent pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir justement faire changer les choses en France.
Bien sûr.
Donc, c'est incroyable et on se rend compte que, bah, tu vois, l'entrepreneuriat, il peut être amené à différents niveaux dans la société et ça peut bah, faire changer le monde. Elon Musk, il est leader dans la voiture électrique, il est leader dans l'espace. Donc aujourd'hui, des hommes peuvent révolutionner et changer le monde.
Bien sûr.
Et je suis très fasciné par ça.
Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que du coup, concernant ta carrière professionnelle, tu aurais des projets ou des objectifs que tu n'as pas encore atteints pour les années à venir.
Bah écoute, oui, j'ai un projet professionnel en cours qu'on
D'accord.
reparlera sur un second épisode
Bien sûr.
où c'est énormément de challenges, énormément de risques. C'est très dur. Justement, je me lance dans, je suis entrepreneur, je me suis lancé en entrepreneuriat, je suis dans la première année.
D'accord.
Donc on aura l'occasion d'en reparler prochainement.
Avec grand plaisir. En tout cas, tu teases super bien la chose. Et donc, du coup, dernière petite question. Quel conseil tu donnerais à un jeune de 18 ans qui a envie de se lancer dans l'automobile, mais qui ne sait pas par où commencer, que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou même tout simplement trouver un stage ou une alternance? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour mener à bien son projet professionnel?
Aujourd'hui, je sais que au début, début de mes années, quand je me cherchais, je ne savais pas quoi faire. C'est vrai que les stages et l'alternance, c'était quelque chose de très fort pour moi parce que ça m'a permis en fait de me trouver.
D'accord.
Donc, moi, je recommanderais de faire un maximum d'alternance.
OK.
C'est souvent dur de suivre le parcours académique classique parce que voilà. C'est très dense et c'est un petit peu barbatif. Donc moi je suis plus dans la mentalité avec l'apprentissage parce que c'est learning by doing. Donc c'est vraiment tu vas aller en classe, tu vas avoir des cours et tu mets en application quasiment immédiatement. Donc moi ça m'a énormément séduit. C'est totalement différent que le parcours normal.
D'accord.
Et bah tu vois j'étais dans la mécanique, technicien, j'ai été chef d'atelier, responsable d'une surface de vente, assistant manager chez Auchan, chez BMW France. Donc j'ai fait un petit peu différents secteurs et différents niveaux pour jauger en fait ce qui me plaisait.
Bien sûr.
Et bah, tout ça, c'est grâce à l'alternance. Donc en plus de ça, c'est la société qui te finance tes études. Donc
D'accord.
tu sors pas de ton master 2 avec un crédit à la banque et il faut pas que tu travailles tes premières années pour rembourser ça.
C'est ça.
Mais au contraire, tu termines de ton M2, tu arrives sur le marché de l'emploi avec une expérience professionnelle de 4 ans, 5 ans des fois.
Bien sûr.
Et bah aujourd'hui, quand tu cherches ton premier emploi, Aujourd'hui, on peut le voir sur les annonces. Tout le monde, enfin, les employeurs cherchent une première expérience.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, ça te permet de faire la différence quand tu sors d'études pour trouver ton premier emploi.
Comment tu conseillerais à un jeune justement qui a envie de trouver une alternance, mais qui ne sait pas par où commencer, qui n'a aucun contact dans ce genre d'industrie?
Bah, s'il n'a aucun contact, il faut oser. Il faut prospecter. Comme je disais, il n'y a pas de secret. Moi, j'utilise énormément LinkedIn. LinkedIn, si on est authentique, aujourd'hui, on partage son CV en ligne, on partage sa recherche.
Bien sûr.
On essaye éventuellement. Je vois qu'il y a des personnes qui le font. C'est-à-dire que tu peux, pourquoi pas, comme un podcast ou alors que ce soit créer des news.
Bien sûr.
Sur LinkedIn, on peut poster de l'actu pour essayer de créer, de captiver une communauté. Tout simplement, essayer de parler de ce qui nous passionne pour attirer des professionnels de ce domaine pour pouvoir, après, avoir une meilleure audience quand tu as un besoin. Donc, ça peut aider, en fait, des jeunes aussi qui se connectent avec toutes les personnes du secteur. Il ne faut pas avoir peur de lancer des invitations, mettre des petits messages personnalisés au maximum.
C'est ce qu'on a fait, nous, pour justement tourner ce podcast.
Ouais, c'est ça. Donc, il faut oser et les opportunités se présenteront. Malgré le fait que il va y avoir énormément d'échecs.
Bien sûr.
Les échecs sont présents. La vie n'est pas facile. Mais aujourd'hui, il faut prendre les échecs comme de la force. Il faut se relever et persévérer.
Parfait. Et donc, du coup, dernière petite question. Est-ce que, à tout hasard, tu peux me donner ton top 5 automobile?
Écoute, oui, top 5 automobile. Bon, voilà, c'est pas des voitures récentes, mais c'est plutôt des voitures qui me collent. Moi, quand j'étais jeune, ça va en faire sourire plus d'un, mais j'étais un grand fan de 205.
D'accord.
Et forcément, la 205 T16, c'est quelque chose d'incroyable pour moi, où je rêverais d'en obtenir une un jour.
D'accord.
Étant très fan de BMW aussi, j'adore toutes les catégories, on va dire les versions E30. Donc, ouais. Les M3 E30, la M3 Evolution, pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable et que j'adorerais avoir un jour dans ma collection. Ça reste des budgets quand même assez abordables,
bien
on va
sûr.
Dire, par rapport à certaines supercars. Après, on a quelque chose qui est sympa, c'est ma troisième voiture, ce serait une F40.
Ok.
Mythique,
là,
incontournable.
Là, on parle d'un autre budget.
Là, on est sur un autre budget, mais bon, voilà, comparé encore à des Lamborghini ou alors des Bugatti, ça reste encore correct. Je suis un très gros fan aussi des Porsche, les 356, les Speedster.
D'accord, très bien.
Je trouve que c'est une super voiture, ouverte, super sympa pour le week-end.
C'est vrai.
Et après, bon, ça c'est mon côté américaine, mais je suis très fan du pick-up avec le moteur de L4,
d'accord.
Le Ram TRX.
Okay.
Donc 6 litres 2, 711 chevaux, turbo compressé. Pour moi, c'est une voiture parfaite.
Ok, très bien, parfait. Donc, merci beaucoup, William, d'avoir tout simplement participé au podcast.
Merci à toi, Hugo. Merci à tous et à toutes.
Mais merci à toi. Dans tous les cas, on se reverra pour une partie 2 plus axée sur l'entrepreneuriat. Et puis, écoutez, j'espère que le podcast vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, sachez que vous avez tous les liens dans la description. Et je vous dis à très vite. Ciao.